Chers amis, on va donc pour une fois se donner un peu d'avance avant d'attaquer le rendez-vous écriture dessinée avec Bruno et ses invités graphiques ou autres. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine. Alors, aujourd'hui, avec les météores signés Jean-Christophe Devenay pour le scénario et Tommy Rodolfi pour la partie dessin, mais également, je pense qu'il a participé au scénario, on est convié à un roman graphique d'une rare ampleur. C'est toute la présence, la puissance du projet narratif qui est à l'œuvre. Imaginez un décalage qui place les protagonistes d'une histoire dans une situation ou inédite, où ils et elles vont révéler toute leur humanité. Nous serons avec Tommy Rodolfi vers 14h15 pour explorer la création de ce livre qui a reçu le prix spécial du jury au Festival d'Angoulême. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la programmation musicale a été choisie par Tommy Rodolfi. On va écouter successivement Rufus Wainwright, Skeeter Davis et pour finir Great Lake Simmers. Antoine est à la technique et je voudrais commencer par une brève. C'est pas tout à fait le genre de bref que je traite régulièrement, mais là, il y avait quelque chose qui m'a un petit peu titillé. Il y a eu une influenceuse, Brittany Lenga, qui a lancé une pétition pour faire interdire le tome 7 de Boule à zéro, signé Zidrou pour le scénario et Ernst pour la partie dessin, accusant la bande dessinée de racisme et d'utiliser des vieux clichés coloniaux. Alors, le tome 7 est paru en 2018, c'est important de le signaler. Alors, il y avait trois raisons qui étaient évoquées. D'une part, que Moïse, qui est un fils de migrant atteint de leucémie, va déféquer sur lui à l'hôpital. Et donc, c'était une mise en situation condamnée par l'influenceuse. Et puis, il y avait aussi une sorte de présentation à un moment du récit du blanc qui vient sauver les noirs et notamment à différents moments et qu'elle les voyait et l'y voyait donc un relent de colonialisme. Et puis il y a une sorte aussi d'argument sur l'infantilisation et la façon de ridiculiser des personnages noirs par des propos dégradants, des rôles différents montrant des actions qui les situent dans d'autres réalités. Alors, Boule à zéro, c'est une bande dessinée qui donc a 8 tomes actuellement et qui évoque la vie d'un enfant, Zita, à l'hôpital, et elle est atteinte d'un cancer et donc elle a la boule à zéro, elle n'a aucun cheveu et puis dans ce tome 7, elle a un voisin de chambre, ce qui la contrarie énormément, qui s'appelle Moïse et qui est noir. Alors, ce que j'ai trouvé mais choquant, c'est cette absence de discernement, de lecture, de précision et d'analyse qui reste constamment superficielle pour déboucher que sur une seule chose qui est une pétition qui cherche à interdire un livre sans à aucun moment poser véritablement la question et affirmer par une lecture un peu plus précise quelles sont réellement les situations en jeu dans cette bande dessinée. Accuser des auteurs d'une bande dessinée de racisme et leurs auteurs d'avoir écrit intentionnellement les propos racistes dans un livre, c'est déjà une accusation extrêmement grave. Alors, le personnage de Moïse est donc un enfant qui est fils de migrant, qui au moment de son arrivée sur le continent, eh bien, aura perdu ses parents qui sont décédés pendant la traversée. Et sa situation de malade à l'hôpital n'est en rien et n'utilise en rien un propos raciste pour évoquer les différentes situations qui peuvent être vécues par un enfant. Zita en est la preuve. Quant aux accusations de ce pouvoir blanc et de représenter le blanc sauvant les noirs, au contraire, dans ce tome 7, à plusieurs reprises, il est montré comment l'absence de considération pour les migrants, la façon dont ils sont pris en charge, eh bien, considérés et même devant l'arrivée du canot, des personnages s'écartent, se sauvent, eh bien qu'il y a au contraire un sérieux problème de ce côté-là, et ça n'a rien à voir avec la situation de Noirs, de Moïse et des occupants de ce canot. Et puis, sur l'infantilisation des personnages, il y a un ensemble de personnages noirs qui sont chacun dans un rôle qui est celui de leur profession, mais qui n'évoque absolument pas une sorte de situation rabaissée. Il y a la réalité du milieu hospitalier, la réalité des séjours longs d'enfants et des accompagnants qu'il y a, par exemple, pour les enfants atteints de cancer. Et donc, cette pétition comme ça balancée, et heureusement, il y a eu une contre-pétition sur les réseaux sociaux, parce que à aucun moment on n'a été chercher une discussion, une explication, une possibilité de mettre un préalable, un préambule, et tout ça, non. On ne fait pas. Ces accusations de racisme comme ça, qui ne sont absolument pas fondées, c'est extrêmement désagréable. Donc, je tenais à le dire. Virgule. Alors, je voudrais encadrer le livre Les Météores avec d'autres projets narratifs. Et je vais commencer par un livre qui est à paraître. Il va paraître au début du mois de mars, dans quelques jours. Ça sera le 5 mars. Et c'est Refuge de Cécile Guillard. Alors, c'est un récit qui va prendre comme cadre, comme contexte, la présence d'un méga-feu aux abords d'une ville et celle de Léo et Juliette, qui sont deux citadins qui ne se connaissent pas. Tout le début du récit, ils sont distincts l'un de l'autre. Ils vont fuir en pleine nature à la recherche de réponses à aussi des questions existentielles qui les animent. Alors, il y a cette question de la survie et de la fascination aussi qu'on peut avoir pour un tel méga-feu. Il y a un danger qui est très puissant et ils vont se retrouver dans la montagne, en pleine nature, dans un refuge. Et une rencontre va s'opérer. Alors, Cécile Guillard est une jeune autrice. Elle a été formée à l'école Estienne et à l'école des Gobelins. Et elle a déjà fait d'autres récits. Une vigne moche avec François Bégaudeau, ou 100 000 ans, Bure et où le scandale enfouit des déchets nucléaires. Avec Refuge, c'est un autre projet narratif qui est à l'œuvre, c'est de montrer l'évolution, la dynamique, les glissements des personnalités, des intériorités avec cette menace de ce méga-feu qui va donner au livre une couleur très, très chaude, qui va vraiment marquer l'esthétique de ce livre. Alors, il y a dans cette formation, notamment au film d'animation avec l'école des Gobelins, une écriture narrative de la bande dessinée qui va être vraiment basée sur la représentation des gestuels, des mouvements, et ça va être un des axes très forts de Cécile Guillard. On retrouve une narration croisée entre les différents personnages, une fuite avec des temporalités très différentes. Léo va trouver refuge en montagne et Juliette, qui va arriver bien plus tard, va se reconstruire également. Il y a une maladie de la main qui peut être dangereuse, l'amener à perdre sa main et qui l'oblige à un arrêt de travail. Il y a donc une organisation du récit par Cécile Guillard qui fait que la matière narrative est assez puissante. C'est un dessin au pinceau qui permet un dessin à l'énergie avec cette vie du trait, ce plein, ce délié qui est assez idéal. C'est un outil très fort pour exprimer le mouvement comme celui de la danse. Et Cécile Guillard s'appuie sur cette qualité de travail de pinceau. Alors, il y a un point sur lequel j'ai une réserve, mais qui me paraît un des points assez essentiels de l'écriture en bande dessinée, c'est être dans ce qui va faire sens dans l'image. Comment le cadrage, comment l'enchaînement des images sur une page, sur une double page, va également faire sens des situations. Il y a dans Refuge une sorte de manque de précision à quelques moments qui fait qu'on se déconnecte un peu du parcours de Léo et de Juliette. Ils n'arrivent pas toujours à nous garder au plus près parce qu'il y a dans cette écriture du mouvement et de cadrage souvent serré une sorte de perte d'efficacité narrative. C'est une réserve, on sent pleinement une écriture qui est en train de prendre toute sa dimension, mais qui par moments, dans ce roman graphique, a encore du mal sur le plan de cette puissance narrative de la mise en image. Il y a une mise en couleur avec ces tons chauds très, très forts, ce travail de couleurs à l'eau qui va aussi être très efficace dans la narration. Et cet apport de l'animation par cette mise en mouvement va aussi trouver sa présence avec la mise en couleur. Il y a une occupation des bulles qui va se resserrer vers la fin du récit, et c'est très bien, avec en tout cas cette sensation de découvrir une auteure qui va certainement avoir une œuvre, une importance dans l'écriture dessinée. Et donc Refuge est une étape dans cette écriture dessinée de Cécile Guillard. Les 160 pages de ce récit ont été publiées par les éditions Casterman. Le livre est au prix de 24 € et il a été imprimé en France. Nouvelle virgule. J'ai juste eu le temps de tousser. Alors, poursuivons. On y arrive. avec un autre projet narratif, celui de Matt Kint et de Dan McDaid. Si vous lisez ça, je suis déjà morte. Alors, Matt Kint, c'est un scénariste et auteur, puisqu'il est également dessinateur américain. J'ai présenté dernièrement son Cosmic Detective. Il avait écrit Mister Mammoth pour Jean-Denis Pandanx. Il est l'auteur, par exemple, de l'histoire secrète du géant. Et il a publié des livres en tant qu'auteur complet chez Monsieur Toussaint Louverture avec la série Mint MGMT. Ce qui est déjà une très grande qualité puisque cet éditeur littéraire a fait que peu de bandes dessinées, dont celle d'Emile Ferris. Dan McDaid a un parcours plus classique avec le dessin de plusieurs comics. Il est également scénariste, plus sur des récits courts. Il a mis en image Superman, Judge Dredd, ou l'auteur, et il est l'auteur de nombreuses nouvelles de récits courts. Alors, le récit. Robin est grand reporter. Elle embarque aux côtés d'un équipage de Marines américains qui se dirige vers un monde hostile appelé Terminus, une planète pleine de merveilles cosmiques et de dieux au cœur d'une lutte de pouvoir. Quelques instants après leur arrivée, toute l'escouade est massacrée au cours d'une embuscade, laissant Robin comme seul rescapé. Abandonnée sur une planète où la langue est étrangère et la politique mortelle. La question du récit, Robin parviendra-t-elle à survivre assez longtemps pour faire la lumière sur ce qu'il se passe et rentrer chez elle afin de raconter son histoire? Alors Matt Kint est vraiment un scénariste qui a l'habitude de décaler, de sortir des poncifs, de ne pas placer cette façon récurrente que le comics a à recourir aux super-héros, mais donc d'imaginer des personnages qui, au contraire, un peu à la manière d'Ed Brubaker et Sean Phillips, vont parler d'une autre façon de ce qui est en jeu aujourd'hui. Alors là, avec ce récit, si vous lisez ça, je suis déjà morte, il y a une intelligence de l'écriture. Robin, la journaliste, fait vraiment acte de journalisme dans ce récit. Elle est accompagnatrice de cette escouade qui va explorer la planète Terminus, qui est donc une sorte de havre possible pour l'humanité. Et il y a cette dimension colonialiste que l'on va retrouver aussi dans la vie de la planète elle-même, une façon aussi de montrer comment se construisent d'autres civilisations. Et par exemple, on peut lire dans la première partie du récit, un des personnages terriens qui est venu sur cette planète avec Robin, tu sais ce qui est universel à travers l'espace, le temps et les cultures extraterrestres? L'odeur de la merde. Et là, il y a cette façon aussi de montrer des sortes de questions récurrentes. Par exemple, la langue. Il y a une langue spécifique pour cette planète. Elle est constituée d'un ensemble d'éléments qui montrent qu'elle a une histoire et même une archéologie. Et c'est une très grande force de Mankind de nourrir comme ça ce contexte et de donner à l'espace du récit toute sa dimension. Il y a une relation sacrée qui est importante avec la présence des créatures divines, donc une relation aussi à la religion, une mise en question du colonialisme sur la façon dont on se comporte avec ces paysages autres, et puis cette façon aussi, par rapport à cette présence religieuse, d'évoquer cette relation entre la violence et le sacré, qui était une des thèses de René Girard, assez essentielle. Les couleurs sont de Bill Crabtree, qui donne aussi à la qualité d'ancrage de Dak McDade, et d'ailleurs Matt Kint a participé à l'ancrage sur quelques pages. Et il y a un récit tout à fait inhabituel qui prend un grand nombre de décalages et qui apporte véritablement une dimension toute particulière et qui affirme ainsi comment le comics s'est complètement régénéré et qu'il est un des espaces narratifs les plus féconds de la bande dessinée mondiale. Si vous lisez ça, Je suis déjà morte, Matt Kint pour le scénario et Dan McDade pour la partie dessin. Le lettrage est de Moscow Hay, les couleurs de Bill Crabtree. C'est traduit par Lucie Callam et c'est publié par les éditions Delcourt dans la collection Contrebande avec l'association avec l'éditeur américain Dark Horse Books. Les 96 pages de ce comic sont au prix de 18 euros. Allez, on retrouve Rufus Wainwright. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, des difficultés récurrentes de la bande dessinée est la construction et la représentation des personnages, la composition de personnalités distinctes avec des visages, des gestuels imprégnés des mêmes différences que celles que l'on trouve dans la réalité. De créer ainsi une humanité riche de spécificités graphiques exprime des parcours, des caractères, des paroles marquées par le doute, la fragilité, l'inquiétude, la folie. C'est la grande réussite du livre « Les météores, histoire de ceux qui ne font que passer ». Que feriez-vous si une météorite devait tomber sur vous ? Dans l'histoire, nous découvrons Floyd, Gary, Casey, Charlie, Holly et d'autres personnages qui confrontent leur vulnérabilité, leur peur et leur humanité face à la fin du monde. Ce roman graphique au format paysage nous immerge dans des quotidiens que l'on ne veut pas subir. Les auteurs nous invitent dans l'intimité des personnages, l'amplitude des cadrages, des plans serrés, voire très serrés, au lointain. Dans cette régularité, des bandes d'images portent ce récit de bout en bout. Tommy Rodolfi adapte son dessin au récit, intègre une esthétique plus réaliste pour intensifier la vraisemblance, avec un trait légèrement tremblé. Chaque personnage se charge d'émotion et d'intensité. La mise en couleur, avec cette palette réduite au ton doux, exprimant le froid, convient des gris colorés et des noirs intenses pour affirmer les solitudes. Tommy Rodolfi est aussi auteur complet sur Hollywood, par exemple, adapte Maupassant dans l'auberge. L'auteur-dessinateur a également réalisé 3 courts-métrages, un autre narratif où la question du cadre est omniprésente. Nous sommes avec Tommy Rodolfi pour qu'il nous invite dans la cuisine de cette œuvre Les Météores. Bonjour Tommy Rodolfi.
Bonjour.
Alors, comment s'est choisi votre dessin pour les météores? Comment l'avez-vous fait évoluer, adapter? Comment s'est passée cette étape?
Alors, c'était sur les météores, c'était vraiment une grosse remise en question. Habituellement, j'ai un style graphique qui est... Bon, je pourrais le qualifier d'un peu plus expressionniste. J'étais habitué à des récits beaucoup plus baroques, parce que j'avais moi-même une passion pour les récits fantastiques, et donc ce style expressionniste s'y prêtait plutôt bien. Mais sur les météores, il a fallu que je réfléchisse peut-être à une autre écriture, quelque chose de plus naturaliste, et donc je me suis principalement basé sur le réel, à savoir essayer de revenir peut-être à un dessin un peu plus académique, peut-être un peu plus réaliste, pour coller au mieux à ce récit. Il fallait que je sois au plus près des personnages, donc je pense que le style, le maniérisme que je pouvais avoir jusqu'alors, il fallait que je le laisse un petit peu de côté pour être au plus proche de la réalité.
À quel moment avez-vous testé, confronté ce nouveau dessin au récit?
Ça s'est fait dès le début. C'était une évidence qu'il fallait que je dessine plus réaliste. Donc j'ai commencé par m'observer moi-même. Je me suis beaucoup mis en situation dans cet album. J'ai pris énormément de photos. J'ai essayé de comprendre à nouveau comment fonctionnait les plis, les vêtements, comment est-ce qu'ils tombaient, quelles pouvaient être les attitudes. Et c'est en faisant toutes ces recherches graphiques que j'ai compris que voilà, en fait, ça jouait peut-être à très peu de choses et qu'on pouvait raconter énormément de choses avec très peu de mouvements, avec très peu d'expression au niveau du visage. Presque à l'image du cinéma, je dirais, hein. C'est-à-dire qu'il suffit peut-être d'un haussement de sourcils, d'un regard qui se ferme un petit peu plus que d'habitude pour qu'on comprenne l'intériorité de ces personnages. Et c'est vraiment dans cette veine-là que j'ai essayé de travailler.
Alors justement, Tommy Rodolfi, vous avez réalisé quelques courts-métrages. Et comment quel lien pouvez-vous faire aujourd'hui entre l'écriture filmique et puis la mise en image d'un récit comme vous l'avez fait sur ce format paysage pour les météores?
Je dirais presque le point de départ est toujours un peu le même, c'est-à-dire qu'on est sur un langage séquentiel, à savoir on travaille en plan, en succession d'images, un petit peu, voilà, le cinéma travaille à partir de plans, de succession d'images, la BD de la même manière, Après, c'est vrai que j'essaie de pas trop intellectualiser, pas trop réfléchir à mon mode de narration en fonction des différents supports. Mais très souvent, c'est le langage bande dessinée qui revient, même quand je réalise des films. J'ai le sentiment qu'il faut que je passe quand même par une narration avec laquelle je me sens peut-être le plus à l'aise, à savoir une narration bande dessinée, pour ensuite, en ce qui concerne le cinéma, y intégrer des mouvements de caméra, y intégrer du son, jouer beaucoup sur le son, sur ce qui se passe en off aussi. Mais je crois que vraiment la base est commune, à savoir le storyboard, le découpage vraiment de cases. Et pour en revenir au Météore, oui, le format à l'italienne a été vraiment... c'est quelque chose, c'est sa partie pris graphique qui s'est vraiment imposée dès le début du projet. Je voulais vraiment quelque chose de très contemplatif, et donc l'horizontalité permet d'accentuer ce sentiment-là. Il faut savoir qu'une planche, en fait, quand elle est construite à la verticale, comme la plupart des albums de bande dessinée, en fait, l'œil est beaucoup plus stimulé. Quand on passe à l'horizontalité, l'œil se repose davantage. Et pour moi, comme les météores parlaient un petit peu de cette vie banlieusarde américaine où tous les habitants semblent somnoler, ça me paraissait évident d'utiliser cette orientation de format.
Quel est le document que vous donne Jean-Christophe Devenet? Comment collaborez-vous avec lui?
Alors, c'est très variable. Très souvent, on part vraiment d'une envie commune. Avec Jean-Christophe Devenet, on s'est rencontrés il y a maintenant, il y a à peu près 6 ans. On a travaillé sur un premier album ensemble qui s'appelle Empire Falls Building. Donc là, avant de commencer ce projet, il m'a demandé dans quels univers je me retrouvais, quel type d'ambiance j'apprécie tout particulièrement. Et à partir de là, il m'a fait quelques propositions de ces échanges. Est né le Empire Falls Building. Et puis il y avait une telle alchimie entre nous dans notre mode de fonctionnement qu'on a voulu faire un deuxième album ensemble. Et moi, en parallèle, donc juste avant de terminer Empire Falls Building, j'avais déjà un projet qui s'appelait Monsieur Météore. C'est-à-dire que j'avais tout un archipel d'idées, d'ambiances, de sensations, de personnages parfois, dont le personnage de Floyd. Et pour moi, impossible d'aller plus loin, en fait. J'avais beaucoup d'idées, je savais que l'ensemble de ces éléments fonctionnaient ensemble, mais impossible de trouver un fil rouge, l'axe narratif. J'avais eu beaucoup de mal, ça faisait 4 mois que j'étais dessus. Et donc j'en ai parlé à Jean-Christophe Devenet, qui je lui ai demandé si ça l'intéressait de jeter un œil au dossier que j'avais constitué. Donc il l'a parcouru et en très peu de temps, il a trouvé la colonne vertébrale de ce récit. Et là, bien sûr, considérablement, enrichi de nouveaux personnages, de ses dialogues. Et donc voilà, on a vraiment construit tout cet album en échangeant par téléphone, par visio ou parfois en s'en rencontrant physiquement pour échanger, pour qu'il me fasse des propositions de personnages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup travaillé autour des personnages. Une fois que l'univers était à peu près posé, on a vraiment développé les personnages, à savoir quelles étaient leurs psychologies, comment est-ce qu'ils allaient réagir à tel ou tel événement. Et on a essayé de construire leurs 24 heures, c'est à savoir quels étaient vraiment leur quotidien. Et c'est comme ça qu'on a construit l'album.
Et Tommy Rodolfi, vous avez donc participé très activement à la construction des personnages? Est-ce que le dessin aide dans ce moment-là? Est-ce que le dessin a aidé à ce moment-là?
Pas plus que ça. Le dessin vient vraiment d'un tout dernier moment. Moi, j'aime beaucoup réfléchir aux histoires sans envisager le dessin. Me dire, on écrit une histoire, comme pourrait le faire un romancier, comme pourrait le faire un novelliste. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter et comment va se dérouler cette histoire? Et ensuite, moi, j'essayais vraiment de me calquer au plus près, au plus juste de l'histoire qu'on est en train d'écrire. C'est vraiment un second temps. J'essaie de ne pas penser au dessin, parce que sinon, je pense que ça me figerait trop. J'aurais trop de pression à savoir. Bon, voilà, j'ai ce type de dessin. Comment est-ce que je vais pouvoir penser les personnages? J'essaie vraiment de faire table rase de tout l'aspect graphique et de me concentrer vraiment d'avoir la casquette scénariste avec Jean-Christophe. Et ensuite se dire, voilà, maintenant je fais appel au dessinateur pour qu'il prenne en charge cette histoire et l'illustre.
Tommy Rodolfi, je vous propose une pause musicale avec un autre de vos choix musicaux. Je vais essayer de retrouver voilà, c'est Skeeter Davis, donc qui est un parfum des années bien avant.
Bien
à tout de suite.
À tout de suite.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Tommy Rodolfi qui a participé au scénario et qui a mis en image les météores, histoire de ceux qui ne font que passer, qui a eu le prix spécial du jury au dernier festival d'Angoulême. Tommy Rodolfi, comment travaillez-vous la mise en scène sur la composition de ces pages et de ces doubles pages, donc qui sont tout en longueur? Vous utilisez un gaufrier avec bien sûr quelques variations, mais c'est une image carrée de base. Et comment jouez-vous, trouvez-vous les différents moments de la mise en scène? Et je poursuivrai avec une autre question.
La mise en scène, c'est une vaste question. Déjà, par rapport à ce principe de gaufrier, c'est quelque chose qu'avec Jean-Christophe Desvenet, on tenait absolument, c'est à savoir, on voulait un rythme plutôt monotone, plutôt répétitif, à l'image un petit peu de ses habitants de banlieue, où chaque action, chaque geste est à peu près le même d'un jour à l'autre. Donc voilà, ces cases carrées s'imposer. Ensuite, en ce qui concerne vous évoquiez tout à l'heure les différentes échelles. Ça, c'est vraiment là encore en concertation avec le scénariste, à savoir quelles sont les intentions. À quel moment est-ce qu'on a besoin d'être proche de ces personnages, à quel moment on a besoin d'éprouver de l'empathie pour eux, ou alors au contraire, à quel moment est-ce qu'on a besoin de s'en détacher pour les isoler, pour les laisser dans leur solitude. C'est vraiment une danse de rapport d'échelle qu'on a essayé de traduire tout au long de l'album. Et puis ensuite, pour la mise en scène, effectivement, la couleur joue un rôle très important pour souligner un petit peu l'atmosphère générale du récit. Peut-être que c'était même votre seconde question, je ne sais pas, peut-être que j'avance un petit peu.
Alors, on va parler de la mise en couleur, puisque on reviendra par la suite sur cette partie mise en scène, mais conduite générale du récit. Et sur la mise en couleur, il y a vraiment une palette qui est assez restreinte, mais oui. On a le sentiment, Tommy Rodolfi, que vous répondez à des questions de dessin et de mise en couleur sur comment représenter le froid. Vous avez évoqué la solitude, la neige, le blizzard. Comment c'est choisi cette mise en couleur qui est vraiment assez étonnante?
Alors là, c'était beaucoup, beaucoup de recherches, énormément de recherches. J'évoquais tout à l'heure le format carré des cases des météores pour souligner l'aspect... la monotonie de ses habitants. La couleur vient renforcer encore cette envie. Je me suis limité à une palette de 5 couleurs par scène, pour justement ne pas avoir trop de variété. Et après, tout l'enjeu était vraiment de choisir les bonnes teintes, puisqu'j'en avais que 5 à ma disposition. Je disais que c'était énormément de recherche, parce que je suis très inspiré par bon nombre de photographes, par pas mal de films, et très souvent je m'intéresse aux ambiances colorées, à savoir comment est-ce qu'une ambiance colorée traduit telle ou telle humeur. C'est en plongeant dans ces livres de photographie que j'essaye de comprendre les palettes et ensuite de créer la mienne, toujours à partir de 5 couleurs.
La question qui suivait, qui allait suivre tout à l'heure, c'est la tenue dans le temps et la vision globale de la création de ce livre. Comment travaillez-vous ce point-là, Tommy Rodolfi? Est-ce que vous faites un book avec toutes les pages précédentes? Est-ce que vous les accrochez à un fil comme Lorenzo Mattotti pour voir les mouvements des couleurs, comment se passe cette conscience constante de l'ensemble du livre?
Alors ça, c'est vraiment, je dirais presque que là, je me fie vraiment à Jean-Christophe, qui a vraiment cette vue d'ensemble de l'album. Vous évoquiez le livre que j'avais fait tout seul, donc Hollywood, il y a quelques années. Là, c'est un travail beaucoup plus important, parce que il a fallu que je me plonge un petit peu et que je rythme toutes ces ambiances colorées. Là, c'est vraiment Jean-Christophe Desvenet qui a pensé les différentes scènes, qui les a imbriquées les unes aux autres, qui a créé le rythme. Alors peut-être qu'il utilise des fils aussi, il faudrait que je pose la question. Mais très souvent, il m'envoie des scènes. Donc c'est scène après scène. Alors on valide l'ensemble du livre ensemble, à savoir comment qu'est-ce qu'on va raconter, à quel moment exactement. Mais après, c'est vrai que moi, j'arrive à me libérer de toutes ces contraintes vraiment d'écriture. Et c'est Jean-Christophe dans son coin qui organise toutes ces scènes. Moi, je sais juste quel type d'ambiance j'aimerais insuffler à la scène. Les scènes nocturnes, j'avais pas mal de références sous les yeux. Je savais que j'allais partir dans des ocres et parfois dans des bleus. Constamment des couleurs plutôt sourdes pour là encore renforcer cette somnolence des couleurs. Et voilà, mais c'est vraiment, en termes de rythme, c'est vraiment Jean-Christophe qui a travaillé sur ce domaine-là.
Quel dessinateur êtes-vous, Tommy Rodolfi? Comment ça se passe sur votre table à dessin? Parce que vous avez un trait qui est plutôt très posé, qui a ce côté tremblé, mais qui évoque avec beaucoup d'émotion chaque personnage.
Pour moi, vraiment personnellement, le dessin est une étape très très fastidieuse pour moi. Je suis très 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 critique par rapport à ce que je peux proposer. Je passe beaucoup de temps à essayer de réfléchir justement sur les plans, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et donc voilà, tout se joue vraiment à l'étape du storyboard, hein, le brouillon. Et après, je dirais que c'est presque que du dessin, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'observations. J'ai un grand miroir dans mon atelier, je regarde comment est-ce que je... Voilà, quelle position prendre, comment être au plus juste de la scène que je suis en train de raconter. Et ensuite, c'est vraiment, je dessine de manière très, très spontanée, avec tous les défauts et parfois les qualités qu'on peut avoir dans le dessin. Et ensuite, je passe à la table lumineuse et j'essaie d'avoir cette liberté retrouvée de traits. C'est-à-dire, j'essaie de ne plus voir le dessin que je suis en train de décalquer, entre guillemets, et d'avoir un premier jet. Comme s'il s'agissait d'un premier jet pour justement avoir ce côté tremblant, libre, léger, alors que je suis plutôt un laborieux en termes de dessin.
Tommy Rodolfi, et la musique, alors on a écouté déjà deux titres, il y en a un qui clôturera notre entretien. Quelle est l'ambiance musicale dans votre atelier?
Ah, elle est très diverse. Très souvent, j'utilise les morceaux, les articles qui sont en lien avec l'album sur lequel je travaille. Sur les météores, ça a été beaucoup à base de musique que vous avez déjà diffusée. J'écoute aussi beaucoup de musique, de compositeurs contemporains, de musique presque expérimentale. J'aime beaucoup me plonger dans des ambiances. Sans forcément de chant, sans forcément de paroles, mais des sons, des ambiances, des choses très abstraites qui peuvent qui m'accompagnent un petit peu dans ce travail de couleur, ce travail de composition. J'ai besoin d'être vraiment immergé dans l'album musicalement pour essayer de me rapprocher au plus près de nos intentions.
Merci beaucoup, Tommy Rodolfi. Je vais rappeler.
Infiniment à vous.
Je vais rappeler les références de votre livre, donc Les Météores, histoire de ceux qui ne font que passer, écrit par Jean-Christophe Devenet. C'est publié par les éditions Delcourt et les 304 pages de ce roman graphique sont au prix de 35 euros. Et le livre a été imprimé en France. Eh bien, très bonne continuation et on va à suivre votre troisième choix musical.
Merci.
Très bonne continuation. Au revoir.
Merci. Mountains of worth.
Terminer cette émission avec un indispensable. Alors, j'ai pas nommé cette rubrique comme ça, mais donc vous avez remarqué que le dernier livre présenté, après bien sûr celui qui a constitué la base de l'entretien, était aussi un livre important. Il s'agit de Menu 30-40 ou 30-40 Menu, au choix, de Jean-Christophe Menu. Alors, 30-40, c'est une série, une collection particulière, c'est un format particulier d'abord, puisque plusieurs éditeurs ont fait des 30-40, qui était une façon de se rapprocher un peu plus du format des planches originales. Alors, il y en a qui sont difficilement publiables parce qu'elles font plus d'un mètre de haut, mais 30-40 était un format qui permettait d'appréhender avec beaucoup plus de précision cette étape et cette puissance graphique des auteurs. Les éditions Futuropolis ont vraiment démarré avec cette collection 30-40 et notamment en 1974, ils en sortent trois. Il y a d'abord Calvo, puis Gir, qui permettait de faire le lien entre Gir et Moebius, et Tardy, avec la véritable histoire du soldat inconnu. Alors, ces trois ont vraiment marqué l'esprit de la collection. Il y aura d'autres qui vont suivre, 22 en tout, signés Futuropolis, et là, pour ce menu 30-40, eh bien, c'est l'Apocalypse. Cette maison d'édition créée par Jean-Christophe Menu après son départ de l'association. Et donc, il a, en tant qu'éditeur, publié des textes et des livres importants, toujours en relation avec les écritures dessinées. Et le 30-40... Menu va donc être le 31e livre de cette maison d'édition. Alors, il y a déjà simplement dans cette transmission d'une des collections phares des éditions Futuropolis qui, je le rappelle, était un éditeur qui réfléchissait de façon précise sur les collections qu'il créait avec un esprit de collection qui est assez rare dans la bande dessinée. Il y a la collection Copyright avec ceux qui correspondaient par exemple à la France. Il y a eu la collection Maracas qui était faite de récits avec des auteurs peu connus. La collection X, format italien, qui était assez réjouissant et il y en a eu pratiquement 80. Donc avec ces 30-40, on avait vraiment un point de l'édition assez exceptionnel. On peut citer celui sur l'art dégénéré, par exemple, avec le collectif Bazooka, le portrait d'Edmond Baudouin, Willem, par Willem, le Svart, le Waxstone, le Baudet, et donc maintenant le 30-40, menu publié par l'Apocalypse où Étienne Robial a gardé une relation à la maquette et il est cité par et remercié par Jean-Christophe Menu en fin de livre. Les 30-40 sont des livres où il y a relativement peu de pages, c'est-à-dire une trentaine, là 36, avec un travail de sur le papier, sur le choix du papier, pour que il y ait une tenue importante. Donc là, on a un très beau papier qui a été choisi. Et Jean-Christophe Menu, avec ce 30-40, eh bien, fait un état des lieux de son écriture en bande dessinée. C'est un auteur qui avait fait quelques livres essentiels, comme par exemple « Livret de famille ». C'est aussi un auteur qui a une écriture critique, précise, là aussi importante, et qu'il est toujours possible de lire à l'association. Alors, on a des récits qui vont être très divers, comme le mystère des vies de poche macabres de la guerre 14-18, et qui montre très bien le fonctionnement narratif, déjà, de Jean-Christophe Menu. Mais on a aussi deux récits autobiographiques, « Aventure avec la mort », la première avec la mort de son père, et la deuxième avec le décès de sa mère. Il y a dans à la fois l'utilisation du grand format et dans l'écriture de Jean-Christophe Menu, une utilisation et une construction de ses propres codes. Bien sûr, il est imprégné des codes de la bande dessinée. C'est un auteur qui a enseigné aussi la bande dessinée au CNED, qui a écrit une thèse sur la bande dessinée, et qui montre que chaque trait, chaque mot, chaque mise en page relève d'un choix précis, d'une écriture, n'est pas simplement une sorte de délire comme on peut l'imaginer dans une bande dessinée underground. Pas du tout, c'est quelque chose qui est nourri de toute une relation à l'écriture en bande dessinée et qui fait que chaque histoire va rapidement prendre une dimension dans cette relation entre le dessin, le trait, le cadrage, le lettrage et cette mise en page, cette taille de la case, cette composition d'une planche. Chaque élément est choisi, voulu, et c'est un point qu'il est essentiel de garder à la lecture. Il y a dans ces différentes histoires des personnages qu'on a vus dans d'autres récits, comme les moines du Mont-Vérité. Il y a d'autres récits, comme un sur les nouvelles aventures du ver T'es pas mûr, et un jeu sur la couleur, puisque le récit, c'est un agent d'auteur qui tient absolument à ce que dans ce livre en noir et blanc, son personnage soit en couleur, son client, puisque c'est vraiment ça. Et donc on va avoir les deux pages en couleur au centre du livre. Il y a cet assemblage, ce recueil qui donne vraiment un aperçu, mais bien plus qu'un aperçu, qui permet d'appréhender toute la dimension de l'écriture en bande dessinée de Jean-Christophe Menu, de sa liberté. C'est une expérience de liberté, et montre vraiment cette rigueur qu'il y a dans l'écriture, qu'on n'appréhende pas au moment de la lecture, mais qui fait que le récit va faire mouche. Et cette très grande force de la bande dessinée, c'est d'avoir un cadre permanent, c'est le cadre de la case, de la planche, et cet espace de liberté qui se trouve à l'intérieur. Cette rigueur nécessaire, tout le temps alliée à la liberté que va permettre le dessin. Grand 30-40, grande nouvelle, la collection a un successeur, certainement le plus bel acte de transmission entre deux éditeurs en bande dessinée. 3040, l'Apocalypse, le numéro 31, donc publié par les éditions L'Apocalypse. Les 36 pages de ce récit sont au prix de 27 euros. Merci Antoine, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bon après-midi sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.